Et oui, on est en direct. Et je suis désolé, Enrique, mais comme du coup tu étais dans une émission enregistrée, l'ordinateur a totalement coupé la fin de ton émission parce que ça reste très cadré, quoi. Il est 12h03. Tu étais en différé, comme tu l'as si bien dit dans ton émission VibraSOS. Et nous sommes en direct sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h. Il n'y a pas de jour férié pour la science. Je suis là, au fidèle, au poste, au micro de Graphite. Aujourd'hui, samedi 2 novembre, nous sommes en direct. La preuve, on vient d'apprendre que c'est l'Afrique du Sud qui vient de remporter la Coupe du Monde de rugby 32-12 face à l'Angleterre. C'est la troisième Coupe du Monde remportée par les Springboks 1995, 2007 et maintenant on rajoutera 2019. Voilà, c'est ça l'actualité. Ça vient de se finir à l'instant, cette finale de la Coupe du Monde de rugby. Et si vous souhaitez réagir sur l'actualité scientifique que nous allons un peu développer dans cette émission d'une heure, vous pouvez nous envoyer des SMS, exclusivement des SMS au 06 95 065 026 06 95 065 026. Enrique, quand tu reviendras au studio, tu répondras à ces messages qu'on a reçus par SMS pendant ton émission. Je n'ai pas osé y répondre parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut trouver la chanson Vira en brésilien. Je n'en sais rien du tout. Donc voilà, je compte sur toi pour pouvoir répondre aux auditeurs qui ont la gentillesse de nous écrire des messages au 06 95 065 026. Nous sommes un samedi, oui, on a un peu perdu en fait avec ce jour férié d'hier. J'ai l'impression d'être dimanche et normalement je reste au lit tranquillement chez moi, mais non, j'ai dû me lever parce qu'on est samedi 2 novembre, déjà le 2 novembre. Ça passe à une vitesse. Le 2 novembre, c'est la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Ça a été créé il y a une dizaine d'années. En fait, la Toussaint, hier, c'est la fête de tous les saints, mais aujourd'hui, 2 novembre, c'est un petit peu la journée de où on pense à tous les défunts, justement. Donc, c'est un peu la journée des morts, entre guillemets, le 2 novembre, et donc, il y a eu la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Autre chose, c'est également, c'est pas gai du tout cette émission pour débarrer, c'est la journée mondiale pour la protection des journalistes. C'était créé en 2013 par l'ONU en hommage aux deux journalistes, Guylaine Dupont et Claude Verlon. Donc voilà, deux journées importantes pour ce 2 novembre dans l'éphéméride d'un point de vue scientifique et technique. Le 2 novembre 2000, la Station Spatiale Internationale accueille ses trois premiers occupants. Il y a 19 ans déjà qu'on habite dans cette Station Spatiale Internationale. Et il y a 2 ans, la mission franco-égyptienne Scan Pyramids annonce avoir découvert une cavité dans la pyramide de Khéops. Il y a 2 ans, et on en avait parlé dans cette émission, parce qu'effectivement, ça avait beaucoup fait parler à l'époque, il y a 2 ans, en disant, ah, mon Dieu, on a trouvé quelque chose, une cavité dans cette pyramide. Et puis depuis, alors, on a beau chercher des informations, là, on trouve pas grand-chose finalement. Il n'y a pas eu énormément de communication vraiment officielle sur ce qu'on a pu y trouver, mais en tout cas, ça a été annoncé il y a 2 ans par cette mission Scan Pyramids. C'est quand même, voilà, ils sont pas trop foulés pour trouver le nom de la mission. On va scanner la pyramide, mais finalement, ça a été efficace. Bravo à cette mission franco-égyptienne. Dans l'éphéméride, 2 novembre 1885, c'est la naissance de Arlos Shapley, astrophysicien américain. Il a notamment apporté des précisions sur la structure de la Voie lactée. Il a reçu plusieurs prix, le prix Rumford, la médaille Franklin, et il est donc né un 2 novembre 1885. Il est mort en 1972, Arlo Shapley. Et si on commémore des décès le 2 novembre, on peut commémorer celui d'Albert von Kolliker, mort le 2 novembre 1905. Il était médecin, anatomiste, historien, biologiste, physiologiste, neuroscientifique, zoologiste suisse, n'en jetez plus. Il étudie particulièrement les méduses et puis des organismes un peu similaires aux méduses, mais chacun étudie ce qu'il veut après tout. Et il conduit pour obtenir de la matière première des expéditions zoologiques en Méditerranée et sur les côte d'Écosse. Au début, il s'intéressait surtout donc aux invertébrés, donc ceux qui n'ont pas de structure de vertèbre, mais bien vite, il va passer aux vertébrés. Pour les embryons de mammifères, il fut l'un des premiers à introduire des techniques microscopiques qui vont inclure la fixation, le découpage, la coloration, mais en fait, ses principales contributions à Albert von Kolliker étaient dans le domaine de ce qu'on appelle l'histologie, donc c'est la recherche, les travaux de recherche sur les cellules. Il prouve par exemple la différence entre les muscles lisses et striés, parce qu'il aurait pu apporter des précisions vraiment importantes au 19e siècle, hein, parce qu'il est mort en 1905, donc c'était vraiment essentiellement dans les années 1880 qu'il a travaillé sur ce domaine-là. C'est lui également qui prouve que les chromosomes sont impliqués dans l'hérédité et que les spermatozoïdes sont des cellules. Donc il a apporté énormément de choses. Albert von Kölnicker, mort un 2 novembre 1905, et donc plusieurs casquettes, vous l'avez compris, de nationalité suisse. Voilà, ça c'est l'éphéméride de ce 2 novembre. L'année 2019 ne va pas encore s'achever. On a encore 2 mois pour remplir ensemble, toutes les semaines, dans cette émission, le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, parce que c'est l'année internationale de ce tableau périodique. L'UNESCO a donc décidé de consacrer, d'ailleurs tant mieux, ça nous permet de parler un peu de chimie dans cette émission, de consacrer ce tableau périodique des éléments réalisé par Mendeleïev, ce fameux tableau que l'on trouvait dans nos classes, dans nos salles de classe par exemple, et on remplit toutes les semaines dans cette émission une case pour parler d'un élément. Et donc je me suis un peu surpris, parce que depuis janvier on en a quand même rempli pas mal, on en est pas loin d'une bonne trentaine je crois de cases que nous avons remplies, et on n'avait pas parlé du fer. Le fer qui donne son nom à une période historique, bien sûr, l'âge du fer qui débute en 800 avant notre ère et qui se termine à la fin du 1er siècle et qui caractérise l'usage de la métallurgie du fer. Il est le plus souvent utilisé sous forme d'alliage comme la fonte ou l'acier. C'est un élément essentiel au corps humain puisqu'il est présent, bien sûr, dans l'hémoglobine des globules rouges qui transportent l'oxygène. L'apport de fer à notre organisme se fait avec des aliments, notamment la viande, les légumes, les produits céréaliers complets, n'oublions pas. Et à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, bien sûr, Gustave Eiffel inaugure son monument, la Tour Eiffel, qui mesure 324 mètres de haut et qui est constituée d'environ 7300 tonnes de fer. Mon Dieu, ça fait quand même assez lourd. Le nom fer vient d'un nom latin qui s'appelle ferrum. Ferrum, pour les vrais latinistes, qui désignait cet élément. Mais si l'âge du fer se situe chronologiquement après l'âge du cuivre et l'âge du bronze, certaines régions avaient découvert le fer avant le bronze, parfois avant le cuivre, donc au niveau historique, on est un peu confus. Le premier peuple à utiliser le fer au quotidien vivait dans le sud du Caucase, à moins 1500 ans avant Jésus-Christ quand même. Ce n'est que vers 800 avant notre ère que la technique de travail du fer arrive enfin dans les pays méditerranéens. Le fer, symbole chimique grand F petit E, parce que le grand F tout court avait été choisi pour le fluor, donc on rajoute un petit E pour bien le distinguer, et case numéro 26 dans ce tableau périodique des éléments. On n'avait pas parlé du fer, un élément très important bien sûr, parmi tant d'autres, et toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année, on évoquera dans cette émission une petite case, on remplira une case tous ensemble, c'est ce que je vous propose. Je vous propose aussi de retrouver au cours de cette émission Anne Fleur, qui nous fait voyager, et c'est très sympa, on va pouvoir voyager, elle choisit une ville au hasard, et nous parle un petit peu des innovations qui ont été créées dans cette ville ou dans ce pays, et là je pense qu'on va traverser l'Atlantique. On verra ça dans le cours de cette émission. Voilà une émission bien chargée où on va parler pas mal de choses au niveau de l'actualité scientifique, notamment médicale, avec le vaccin contre la grippe. Et on va parler de l'intelligence artificielle également. Et on va enfin se poser cette question de savoir comment des scientifiques ont appris à des rats à conduire une voiture. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est encore que je vous propose? Et on essaiera de découvrir un peu les secrets de la bière belge, à consommer bien sûr avec modération, le CSA nous écoute comme toujours. Biotine, émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Je rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, nous envoyer des SMS au 06 95 065 026. Émission d'actualité scientifique, émission également de musique, parce que c'est aussi ça Graphite. A tout de suite. Here we go.
I don't wanna be hiding no more. I don't wanna be running no more. I just wanna be cruising, oh, by the shore. I just wanna be holding hands and more. And I just wanna be free to ignore that
Addiction, c'était Yuxek sur l'antenne de Graphite, bien sûr, et vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir sur l'actualité scientifique avec donc l'OMS qui travaille, il faut pas croire, hein, parce que c'est quand même un pari qui sauve pas mal de vies, et c'est un assemblage qui est assez complexe, presque aussi complexe qu'un grand vin, nous dit-on. Chaque année, c'est la composition du vaccin contre la grippe qui est déterminée avec plusieurs mois d'avance par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui tente pour cela de prédire quels virus vont circuler l'année, l'hiver suivant. Donc c'est quand même un pari assez important. Et donc on connaît depuis mars la composition du vaccin pour cet hiver qui commence à être administré, et d'un hiver sur l'autre, cette composition doit être modifiée, car les virus de la grippe vont évoluer de façon constante. Or, plusieurs mois sont nécessaires au laboratoire pharmaceutique pour essayer de fabriquer le vaccin contre la grippe, dont le mode de production est assez spécifique en fait, parce que les virus qui vont composer ce vaccin doivent auparavant être cultivés dans des œufs de poule. Alors, c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant, mais c'est comme ça qu'on cultive ces virus. Et donc c'est pourquoi, étant donné que c'est assez long et assez complexe, eh bien la composition de ce vaccin doit être fixée longtemps à l'avance, au terme d'un processus complexe qui est mené donc par l'OMS, qui est conclu deux fois par an, en février pour l'hémisphère nord, en septembre pour l'hémisphère sud. Et alors, pour tenter de prédire quels virus vont circuler l'hiver suivant, eh bien l'OMS analyse les données de ces centres nationaux de la grippe. Ces centres sont répartis dans une centaine de pays. Ces centres, en fait, surveillent la circulation des virus durant la saison en cours, et les virus grippaux responsables des épidémies saisonnières sont de deux types, le type A et le type B, et les recommandations de l'OMS portent sur des vaccins qu'on va appeler quadrivalents, c'est-à-dire qu'il y en a quatre types de virus, deux de type A et deux de type B. Et pour les virus choisis pour composer les vaccins, eh bien pour qu'ils correspondent à ceux qui vont circuler l'hiver d'après, eh bien, il faut essayer de les choisir le mieux possible pour que la vaccination soit la plus efficace, évidemment. Et le problème, c'est qu'il est impossible de prévoir avec quelle certitude quels sont les virus qui vont circuler 8 mois plus tard. Et c'est donc évidemment très difficile de parvenir à une efficacité du vaccin à 100%. Et ce qui est intéressant dans l'article de Futura Science que j'ai retrouvé, on a un retour sur la saison dernière et on apprend que l'hiver dernier, l'efficacité du vaccin en France a été de 47%, tout virus confondu. 47% d'efficacité. Objectivement, c'est quand même pas énorme. C'est 1 sur 2 quelque part. Le vaccin qui a commencé à être administré en France là depuis quelques jours et notamment aussi dans toute l'hémisphère nord. Donc pour cet hiver, il est composé d'un virus A qui a été prélevé l'année dernière en Australie, d'un autre virus A qui a été prélevé il y a 2 ans dans le Kansas aux États-Unis, d'un virus de type B qui a été prélevé il y a également 2 ans, mais cette fois au Colorado, toujours dans les États-Unis, et enfin d'un quatrième virus, il est de type B également, il a été prélevé en 2013 à Phuket en Thaïlande, et on nous apprend que les deux premiers vaccins qu'on remet cette année un petit peu dans le menu, il figurait déjà dans le vaccin de l'année dernière, mais les deux derniers, donc celui qui vient de Colorado et celui de Thaïlande qui date de 2013, on le remet encore, mais on a changé les deux premiers. C'est complexe, c'est un processus assez difficile, si bien que l'OMS annonce avoir eu cette année un mois de retard dans ses recommandations, parce qu'elle avait choisi 3 virus sur 4 à la date butoir qui est précisément le 21 février. C'est-à-dire que le 21 février, l'OMS doit dire, voilà, le vaccin qui va être administré 8 mois plus tard doit avoir ces 4 composants. Et il n'en avait que 3. Il a fallu trouver le 4e parce que elle n'a pas pu se prononcer à temps, l'OMS, s'étonnait que on s'est rendu compte que l'un des virus était en évolution, et donc on s'est dit, oulala, s'il est en train d'évoluer, en train de muter quelque part, eh bien on se dit que l'évolution peut être assez rapide, si bien que le vaccin qu'on va produire sera totalement inefficace si ce virus évolue. Et donc du coup, elle a dû attendre 1 mois pour pouvoir enfin donner la composition exacte du vaccin qui ensuite a dû être produit pour pouvoir enfin être administré. Mais écoutez, on suivra l'année prochaine l'efficacité de ce vaccin pour voir si on arrive. Alors évidemment, on est bien d'accord qu'un vaccin contre la grippe n'est pas du tout efficace à 100%, il faut bien l'admettre, mais on essaye, selon les années, d'avoir quand même un petit peu comme des millésimes de vaccins, hein, parfois qui sont très bons, puis parfois un petit peu médiocres, et c'était le cas un petit peu l'année dernière. Ça, c'est la communication de l'OMS. Nous sommes en pleine vacances de la Toussaint, alors on parle un peu d'Halloween. Personnellement, j'ai l'impression que ça perd un peu sans perdre de vitesse, hein, j'ai l'impression, Halloween, maintenant, par rapport à quelques années, mais par contre, les films d'horreur sont une bonne occasion de célébrer Halloween, et ça peut apporter une solution, nous dit-on dans cet article. Apprendre avec beaucoup de légèreté et beaucoup de recul, je le dis dès le départ, les films d'horreur peuvent apporter une solution à l'un des fléaux grandissants de la société moderne, à savoir l'obésité. D'une manière simple, si on veut expliquer l'obésité, c'est très simple. D'un côté, il y a une entrée de calories très importante, et de l'autre, il y a des dépenses énergétiques faibles, et c'est comme ça qu'il y a un déséquilibre qui fait que on bascule vers l'obésité. Pour essayer de réguler cet équilibre, il faut essayer de faire pencher la balance de l'autre côté, enfin, il faut essayer de trouver un équilibre. Soit on limite un peu les apports en calories, donc en clair, on mange moins, soit on augmente l'exercice, donc en clair, on essaye de faire du sport, ou on essaye de combiner les deux également, et toute cette recherche d'équilibre peut essayer de résoudre le problème de l'obésité. Mais il y a des chercheurs britanniques qui nous racontent qu'en restant bien au chaud dans son canapé, qu'en regardant un film d'horreur, eh bien, on perd l'équivalent, nous dit-on, l'équivalent calorique d'une demi-heure de marche. Mon Dieu, alors, quand on lit ça, quand on voit un article comme ça, on essaye d'en savoir un petit peu plus. Et je vais vous expliquer un petit peu le protocole qui a été mis en place. En fait, le surpoids frappe le monde entier. Il y a une analyse assez intéressante sur cet aspect-là dans cet article. Un surpoids qui frappe donc justement ce monde entier, à tel point qu'aujourd'hui, les personnes qui meurent de leur surcharge pondérale sont plus nombreuses que les victimes de malnutrition et de sous-nutrition. Quand même un petit peu bizarre maintenant cette société, mais voilà. Notre sédentarité croissante va qui est accompagné aussi par une nourriture un petit peu de mauvaise qualité, eh bien tout ça nous fait de façon inéluctable grossir. Et la France, malgré son art de vivre, malgré la gastronomie, tout ça, enfin bref, la France, eh bien la France a fait un peu mieux que certains de ses voisins. Mais entre 97 et 2009, on nous apprend que les chiffres de l'obésité ont quasiment doublé. Donc c'est quand même assez inquiétant. Alors que faire ? Donc plus de régime, plus de sport ou autre, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien pas forcément, à en croire donc ces chercheurs de l'université de Westminster. D'après leur étude, eh bien on peut augmenter les dépenses caloriques en restant assis sur son divan si on regarde un film d'épouvante. Selon leurs estimations, les vidéos les plus effrayantes permettent de dépenser autant d'énergie qu'une demi-heure de marche à pied. Alors, est-ce que le film d'horreur va être prescrit maintenant par les médecins ? Peut-être pas, parce qu'on apprend en fait déjà que d'une. Cette étude a été commandée par une société qui est spécialisée dans la location de DVD. Je trouve ça extraordinaire. Comment des chercheurs scientifiques peuvent s'associer à une entreprise spécialisée dans la location de DVD pour dire « Oh, il vaut mieux louer un DVD, comme ça vous allez perdre du poids », c'est quand même assez extraordinaire. Deuxième chose, c'est que cette étude porte sur une dizaine de personnes. Des jeunes de 19 à 24 ans, des hommes, des femmes de façon assez équilibrée qui ont été recrutés pour regarder un film d'horreur qu'ils n'avaient jamais vu. Et donc on a mesuré leur rythme cardiaque, leur utilisation d'oxygène et le rejet de dioxyde de carbone. En fait, on essaye de déterminer de façon un petit peu indirecte la consommation énergétique. Et en moyenne, les dépenses caloriques augmentaient d'un tiers durant le visionnage du film. Et la palme d'or du film d'épouvante qui demande le plus de calories à utiliser, eh bien, c'est Shining de Stanley Kubrick, avec 184 kilocalories parties en fumée, nous dit-on. Il devance sur le podium le film Les Dents de la Mer, et le troisième sur le podium, c'est L'Exorciste. Trois films que des jeunes de 18 à 24 ans ne connaissent absolument pas. Tu m'étonnes, des films qui ont plus de 30 ans. D'où vient cette dépense, justement, excédentaire? C'est-à-dire qu'on a considéré qu'ils avaient dépensé de l'énergie, et eh bien de la sensation de peur qui est suscitée par le visionnage de ce film. Face au danger, eh bien l'organisme doit faire en sorte de pouvoir réagir et il se prépare à la fuite et au combat. Et donc tous les cas, le corps doit pouvoir endurer un effort physique intense. Et donc, il y a les glandes surrénales qui vont sécréter de l'adrénaline et le cœur va accélérer pour essayer de veiller à ce que le cerveau, les muscles soient bien pourvus en énergie, en clair, prêts à agir. Et les battements du cœur, du coup, comme il accélère, demandent également la consommation de sucre, de glucose, pour fonctionner, ce qui contribue également à l'augmentation des dépenses caloriques. Alors, est-ce la recette miracle pour maigrir ? Absolument pas, bien sûr, nous dit cet article de Science et Vie, qui explique que, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est un travail de recherche qui comporte de nombreuses lacunes. De plus, il y a un élément également qui nous est raconté dans cet article, c'est que même si on fait rien, c'est-à-dire que même si on reste affalé sur son canapé, on dépense des calories, parce que le cœur, il continue, enfin, on respire, on vit quelque part. Donc si on vit, on dépense de l'énergie, notamment pour maintenir la température du corps à 37 degrés. Donc il y a déjà ça à prendre en considération, si bien que quand on enlève cette activité de base de notre corps, eh bien, l'activité liée spécifiquement au visionnage d'un film d'horreur est finalement assez peu importante, et donc ça reste assez modeste. Bref, c'est bien sûr une étude qui est à prendre avec beaucoup de recul, évidemment. C'était un petit peu spécial Halloween dans cette émission, mais la conclusion de cette étude, elle revient sur des choses que l'on dit depuis un certain temps maintenant. Il n'y a pas de secret, c'est ce que je vous disais au début de l'article, il faut essayer de retrouver un équilibre entre une consommation, un apport de calories, j'allais pas dire modéré, mais en tout cas, on va dire équilibré, ou on va dire normal, et une dépense de ces calories qui peut être facilitée notamment par l'activité physique. Voilà. Mais donc, arrêtons de regarder des films sur des DVD. Ou à la rigueur, eh bien, prenez votre podcast, hein, votre MP3 ou je ne sais quoi, vous vous mettez sur graphite et puis vous allez courir un petit footing. Ça peut être très efficace. On écoute un titre sur l'antenne de graphite, 06 95 065 026. Il est 12h28. Vous êtes peut-être à table. Je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous allez avoir le cœur assez bien accroché pour les deux nouvelles d'après qu'on va écouter. Enfin, que je vais essayer de vous lire juste après le titre sur l'antenne de graphite. À tout de suite. Alors, si je mets pas la musique, ça ne peut pas démarrer. Voilà, c'était Martha Raine and the Grove Velvets avec I'm Not Your Regular Woman sur l'antenne de graphite. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet accent british ? C'est du n'importe quoi. Il pleut sur Compiègne, mes enfants, restez à l'abri où que vous soyez, sauf s'il fait très beau. Peut-être en Californie, allez savoir. On retrouve Anne Fleur qui nous emmène où ? Tiens, Anne Fleur. Bonjour Anne Fleur, c'est à toi.
Good morning Compiègne, bonjour Jean-Noël, bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver à nouveau ce matin. J'espère que la balade en Colombie la semaine dernière vous a plu et que vous avez, j'espère aussi, appris 2-3 trucs. Aujourd'hui je vous amène direction pas très 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 loin, un peu plus au nord, direction l'un des berceaux de l'innovation mondiale. Je vais vous présenter des innovations que j'espère être un peu surprenantes. Direction la Californie et plus précisément à San Francisco. Alors San Francisco, pourquoi est-ce que c'est connu pour être le berceau de l'innovation? Parce qu'en fait, c'est à quelques kilomètres de la vallée de la Silicon Valley. Et pourquoi est-ce qu'on appelle la Silicon Valley Silicon Valley ? En fait, ça vient en fait du matériau qu'on retrouve sur les cartes mères, et parce qu'en fait, la Silicon Valley, c'était le berceau de l'informatique il y a une trentaine d'années. Alors, j'ai vraiment essayé de rester loin des Uber, Google et tutti quanti, et donc j'ai essayé de partir sur des innovations auxquelles vous ne vous attendiez pas. Alors, c'est parti. Alors, la première invention dont je vais vous parler, moi je trouve qu'elle est plutôt à point venu pour un samedi. J'espère que vous avez des super plans de prévus pour le week-end. Moi, personnellement, j'adore me prendre un petit martini dans mon canapé en lisant un bon bouquin. Et alors justement, le martini, si tout le monde n'est pas complètement d'accord sur l'origine exacte du martini, on sait que sa création vient de la ville de San Francisco. A priori, donc, sa création daterait de la rue et vers l'or. Et en fait, il s'agirait de la demande qui, à l'époque, a été considérée comme complètement bizarre d'un mineur qui cherchait donc à avoir un martini, le cocktail, hein, pas le martini qu'on achète en bouteille en France, et donc le cocktail qui est à base de gin ou de vodka. Et donc, c'est comme ça que serait né le cocktail martini, comme dans James Bond. La seconde invention dont je vais vous parler, on en a parlé il y a quelques mois, il s'agirait du gin de Nîmes. Alors on en porte peut-être tous aujourd'hui d'ailleurs. Donc Lévi-Strauss, c'était un entrepreneur qui vendait des épices à l'époque dans la ville de San Francisco, donc en 1850. Et en 1873 exactement, il a déposé un brevet pour des rivets qui posaient sur les pantalons, et c'est comme ça que sont nés les blue jeans. Et pour la petite histoire, en fait, donc Monsieur Strauss, en fait, il était venu à la base sur la côte ouest pour aider son frère, qui était à New York, qui cherchait à étendre son business, qui était donc pas du tout dans le domaine du jean ni du textile. Et voilà, comme quoi, parfois, on peut être bien inspiré d'aller donner un petit coup de main à la famille, au business familial, parce que on peut avoir quand même des sacrément belles inventions et des belles histoires de succès familial. Une autre invention dont je souhaite vous parler, alors celle-ci va peut-être pas complètement vous surprendre, il s'agit un peu d'une des icônes de la ville de San Francisco, j'ai nommé les cable cars, qui sont donc ces fameux tramways qu'on voit en train de remonter les collines. Alors cette invention, on la doit à un certain Andrew Smith Halliday. Alors pour le coup, j'ai beau parler anglais, je sais pas comment on prononce la fin de son nom. Et cette invention, donc, elle daterait de l'été 1873, donc un peu plus de 100 ans. 140 ans d'ailleurs, presque 150. Et pour la petite histoire, c'est une invention qui a quand même causé énormément d'accidents depuis sa création. Et à la fin des années 40, la ville de San Francisco s'est même demandé si elle allait pas complètement les retirer de la circulation. Aujourd'hui, ils sont toujours en circulation pour notre plus grand bonheur. En tant que touriste, c'est quand même sacrément magique et donc ça transporte encore beaucoup de gens dans la ville. Allez, on a encore le temps pour quelques autres petites inventions. Une qui m'a sacrément surprise. Alors pour ceux qui sont allés à San Francisco, peut-être que ça ne vous surprendra pas, puisque c'est vrai qu'il y a une énorme population chinoise à San Francisco. Eh bien, sachez que le fortune cookie, donc ces petits gâteaux qu'on casse en deux au restaurant chinois avec un espèce de présage, une superstition sur ce qui va se passer, je sais pas, dans notre vie, bon, bref, ou un dicton ou un truc sur lequel on peut réfléchir. Eh bien, ces fortune cookies, en fait, ils viennent de San Francisco. C'est une invention qui date de 1914 et à l'époque, en fait, donc c'était un magasin, une boulangerie, pardon, qui les vendait aux restaurateurs. Et ça a commencé, en fait, au Japanese Tea Garden, qui est d'ailleurs une attraction que je vous recommande de faire si vous avez la chance de partir à San Francisco. Donc voilà, c'est une invention qui date de la Seconde Guerre mondiale et c'est absolument pas asiatique, ou en tout cas pas de manière territoriale. Une autre invention dont je vais vous parler, qui m'a fait beaucoup rire, c'est le Murphy Bed. Le Murphy Bed, donc c'est en français le lit escamotable. Vous savez, vous avez un espèce de grand meuble, un peu, on dirait une penderie, et en fait on tire dessus et on a le lit qui en sort. Et en fait, cette histoire vient d'un certain monsieur Murphy au début des années 1900, et en fait il voulait pouvoir inviter des femmes dans son appartement. Mais il vivait dans un studio et il pensait que c'était vraiment super malvenu de pouvoir inviter quelqu'un chez lui alors qu'il n'avait même pas de chambre. Et en fait, c'est comme ça qu'il a inventé donc ce lit mural, si on peut dire, pour qu'il puisse cacher son lit en créant donc une atmosphère un peu adéquate pour quelqu'un qui venait, que ça fasse pas je t'invite tout de suite pour sauter dans mon lit. Voilà pour la petite histoire. Et enfin, la dernière invention dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça va un peu avec mon martini, en tout cas ça serait allé avec mon martini il y a quelques cinquantaines d'années. Il s'agit du jukebox, donc ce phonographe qui marche avec des pièces de monnaie. Et bien en fait, il a été commercialisé pour la première fois en 1889 et il avait été installé donc dans le Saloon Palais Royal de San Francisco. Cela ne s'invente rende pas. À l'époque, on payait un centime pour chaque chanson. Et dans les premiers 6 mois de sa mise en service dans le saloon, cette machine a rapporté plus de 1 000 $. Sachant que si on remet les choses en perspective, en 1889, 1 000 $, ça représentait une énorme... Ça représente toujours une somme intéressante d'argent, mais là, ça représentait vraiment une somme énorme d'argent. Voilà, c'est tout pour cette petite visite des inventions de San Francisco. J'ai essayé de la faire un petit peu plus légère que d'habitude. On parle un petit peu moins de technologie, mais pour essayer de se prendre un petit peu moins la tête que tous ces géants de la tech qui, parfois, nous donnent des complexes. En attendant, moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour une destination surprise. À bientôt.
Merci Anne Fleur, c'était San Francisco, on a appris plein de choses. Effectivement, tu nous parles de boire et de manger à cette heure du déjeuner, c'est cruel pour moi qui suis justement un petit peu bloqué dans le studio. 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir par SMS, n'hésitez pas. Alors, je vous disais juste avant la musique là qu'on a passée tout à l'heure, deux informations que j'ai retrouvées sur le site Futura Science, qui date des informations qui datent de cette semaine d'ailleurs, et qui sont assez étonnantes. Oui, en tout cas, je sais pas, enfin, sur des sujets qu'on évoque, à mon avis, je crois qu'on n'a jamais évoqué ces sujets-là dans cette émission Biotine, alors que ça fait 10 ans qu'elle existe, mais on n'a jamais parlé des toilettes, en clair, je crois. Eh bien, il faut un début à tout, et ce début, c'est aujourd'hui, mesdames et messieurs, voilà, donc on va pouvoir parler des toilettes, et on va parler sur deux aspects. Le premier, c'est le fait que, de toute façon, on le sait, on est traqué par n'importe quoi, et par n'importe qui, le fisc, Google, le GPS, le téléphone, notre carte bancaire. Eh bien, il y a également un mouchard, un soupçonné, qui se cache dans notre salle de bain, ce sont les toilettes. L'eau usée qui contient des marqueurs de tout ce que nous mangeons ou avalons, eh bien, tout ça apporte une mine d'informations quand ces données sont croisées avec le niveau de vie. C'est une étude sérieuse publiée dans la revue sérieuse PNAS qui en parle. Ce sont des chercheurs de l'université du Queensland et de l'Institut de recherche norvégien de l'eau qui ont prélevé quotidiennement durant une semaine des échantillons d'eau usée qui provenaient de 22 stations d'épuration australiennes. Des stations, ça représente à peu près un cinquième de la population. Et ils ont croisé les données avec celles d'un recensement qui a été effectué. Les chercheurs ont ainsi pu comparer la composition de l'eau avec les données socio-économiques issues du recensement, comme l'âge, le niveau d'éducation, le niveau de revenu, le taux d'emploi, la qualité du logement, et ainsi de suite. Et on a donc précisément passé au crible 43 marqueurs, biomarqueurs en fait, et les chercheurs ont découvert des corrélations parfois étonnantes et aussi des constatations assez logiques. Alors, davantage de biomarqueurs de vitamine B se trouvent dans les urines des personnes aisées, ce qui va un petit peu affirmer l'idée que cela atteste en fait qu'il y a une alimentation plus diversifiée, hein, c'est ce que notent les chercheurs. Les auteurs ont également constaté une forte corrélation entre la consommation de fibres et le niveau d'éducation, notamment chez les cadres, ce qui indique que les cadres mangent davantage de fruits et de légumes que les populations défavorisées. L'étude s'est aussi penchée sur les biomarqueurs signalant la consommation d'édulcorants comme le sucralose, l'acésulfame, la saccharine. En fait, ça semble unanimement apprécié, quel que soit le niveau de vie apparemment, donc il n'y a pas de distinction, alors qu'on aurait pu penser que, mais non. La consommation d'opioïdes est à peu près équitablement réparti selon le niveau de vie et l'âge, avec deux exceptions. La morphine, dont la consommation augmente significativement quand on vieillit, ce qui va révéler un petit peu une plus forte fréquence des maladies chroniques. Et autre exception, le tramadol, qui est très courant chez les ouvriers, qui sont sans doute plus exposés à des douleurs dues au travail. L'analyse des biomarqueurs d'antidépresseurs est elle aussi très révélatrice, parce que de manière générale, eh bien, on se rend compte que les antidépresseurs sont davantage présent chez les populations défavorisées, mais chaque antidépresseur semble avoir sa cible privilégiée. Il y a le citalopram pour les personnes seules et divorcées. Je trouve ça formidable. Maintenant, ils vont aller chercher nos urines, tout ça, et ils vont se dire, tiens, il a pris ça, il est comme ça. Il y a le venlafaxine qui est plutôt spécifique pour les ouvriers. Chacun son antidépresseur. Et l'amitriptyline qui est plutôt pour les personnes ayant suivi des études supérieures. Tu ne prends pas le même antidépresseur que tu sois ouvrier ou que tu sois cadre supérieur. Il faut le savoir. Chacun son antidépresseur. Autre curiosité, la forte consommation de cétirizine chez les cadres, c'est en fait un anti-allergique utilisé contre les rhinites allergiques et l'urticaire. Et en fait, on se demande si c'est parce qu'ils n'auraient pas des chats ou des arbustes dans leur jardin. Alors, on commence déjà à se poser des questions. Enfin, bref, on se rend compte, dernière chose, que les biomarqueurs liés au tabac sont répartis de façon équitable dans la population. Par contre, au niveau de l'alcool, c'est différent et c'est une étude assez intéressante, notamment, enfin, ça se passe en Australie. Les personnes qui ont un haut niveau de revenu et qui ont habité un logement avec un loyer élevé ou qui ont des hautes responsabilités, eh bien, ce sont les personnes qui boivent plus. C'est ce qu'on s'est rendu compte en fait en analysant les eaux usées. La consommation d'alcool étant un marqueur de statut social, eh bien on se dit que finalement ils boivent plus, parce qu'ils reçoivent peut-être plus de monde et ainsi de suite, chez eux. Et du coup, ça se retrouve dans les eaux usées. De même, la consommation de café semble fortement associée à un niveau d'éducation élevé et à une bonne aisance financière. Voilà ce que nous annonce cette étude qui donc nous vient d'Australie et à laquelle l'Institut de recherche norvégien a également travaillé. L'eau des toilettes révèle le niveau de vie. Voilà, ils n'ont plus besoin de faire des recensements, de payer des gens, aller sonner à des portes pour remplir des questionnaires compliqués. Vous ramassez les eaux usées et vous aurez toutes les informations. C'est quand même beaucoup plus simple. C'est assez étonnant, mais je vous rappelle, c'est une étude sérieuse cette fois par rapport à l'autre qui était un petit peu légère sur les films d'horreur. Là, voilà, c'est une étude qui a été publiée dans une revue scientifique, voilà, avec un protocole très strict pour pouvoir analyser les eaux usées. Il y a une deuxième information qui est encore assez intéressante, qui concerne l'intelligence artificielle qui va s'inviter dans nos toilettes. Mais on va écouter, donné qu'il pleut, alors ça s'est un petit peu calmé sur Compiègne, mais on va quand même écouter ce titre When It's Raining, quand il pleut, c'est pas mal. C'est The Barberettes sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après pour terminer cette émission Biotine. Vous écoutez Graphite sur 94.9 sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui écoutent Internet. J'ai faim, vous pouvez pas vous imaginer. À tout de suite. Barbarette sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, médicale, technologique. Donc là, on est plutôt dans le médical aujourd'hui, finalement. On a parlé de vaccins contre la grippe et là, on va parler d'intelligence artificielle. Certes, c'est un peu de la technologie, mais on reste dans du domaine médical parce qu'on va encore parler des toilettes. Finalement, on ne s'en sort pas. C'est la deuxième information sur le site Futura Science cette semaine. Je trouvais ça assez étonnant, mais c'est là encore une information assez sérieuse. L'intelligence artificielle qui est bien sûr, depuis qu'on en parle dans cette émission, de plus en plus présente dans notre quotidien. Ça maîtrise des jeux vidéo, ça crée des vidéos réalistes, ça également apporte une aide pour les recherches scientifiques. Et bien maintenant, l'intelligence artificielle s'attaque désormais à nos toilettes. Et oui, et précisément aux excréments qui sont une véritable mine d'informations médicales. L'aspect visuel permet de renseigner bien sûr sur l'état de la flore intestinale, le régime alimentaire, et ça apporte des informations sur les dysfonctionnements et les maladies du système digestif. Il y a donc un groupe de travail, un groupe de chercheurs qui souhaite créer un outil capable d'analyser automatiquement les images des selles pour évaluer la santé des patients. C'est un projet qui va aboutir à une collaboration entre des chercheurs du MIT, le fameux Institut de technologie du Massachusetts, un grand centre de recherche scientifique international. Il y a également un coach virtuel qui s'appelle Oji, également coach virtuel pour la santé intestinale sous forme d'application qui est utilisée. Une start-up Seed qui va être concentrée sur la santé du microbiome. Donc, les trois entités vont travailler ensemble et pour créer une intelligence artificielle capable de diagnostiquer les problèmes intestinaux, eh bien, les chercheurs ont d'abord besoin d'une banque d'images conséquente, assez importante, des photos de selles humaines, bien sûr. Elles ont d'abord commencé leur recherche en créant, je trouve ça extraordinaire, ils ont créé des fausses selles avec de la pâte à modeler. Ok, très bien, pourquoi pas, mais en fait ils se sont dit non, c'est pas assez réaliste. Donc on va regarder sur internet, à mon avis, on va retrouver des choses. Et effectivement, ils ont voulu chercher des images réelles et ils ont trouvé leur bonheur sur des forums en ligne. Il y en a un qui s'appelle Reddit et il y a des, les utilisateurs de ce forum, eh bien ils discutent en fait de leurs problèmes intestinaux et ils discutent de leurs selles, quoi. Ils partagent des photos, c'est tellement génial. Ça change des photos de vacances ou des photos d'enfants. Bref, il y avait des informations disponibles sur ce site, en tout cas sur internet. On trouvait des choses, mais c'est pas suffisant. Et donc, mesdames et messieurs, nous pouvons nous aussi aider la science dans cette démarche. Et donc, les chercheurs ont lancé une nouvelle campagne. Hashtag give a shit. Alors je ne vais pas traduire, mais on demande à tous les internautes d'envoyer des photos de leur matière fécale. Il faut se rendre sur un site qui s'appelle seed.com, seed.com. C'est uniquement avec votre smartphone parce que ça, le site refuse les images qui proviennent de l'ordinateur. Mais bon, après tout, avec un smartphone, on peut prendre une photo beaucoup plus facilement qu'avec un ordinateur. Les images sont anonymes, rassurez-vous, votre nom ne sera pas diffusé. Et les images vont être analysées par une équipe de gastro-entérologues qui vont classifier ces photos parmi l'une des 7 catégories de l'échelle de Bristol. Et l'article n'explique pas ce qu'est l'échelle de Bristol. Alors, vous connaissez ma curiosité, je me suis donc renseigné. Et en fait, l'échelle de Bristol, c'est très sérieux, ça vient de l'université de Bristol, qui a donc conçu une échelle visuelle, qui va répartir les selles humaines en 7 types, en 7 catégories différentes selon le visuel de la chose en fait. Et cette échelle va être utilisée justement pour pouvoir classifier ces différentes images qu'ils vont recevoir. Les chercheurs espèrent ainsi créer une base de données de 100 000 images qui vont servir d'entraînement à l'intelligence artificielle, parce que je rappelle que l'intelligence artificielle va être là justement pour pouvoir analyser par la suite ces photos, et notamment les photos qu'on va pouvoir envoyer à distance pour voir si ça va bien, en fait. Et du coup, pour pouvoir entraîner cette intelligence artificielle, elle doit avoir une base de données assez conséquente de photos. Je suis en train de réaliser ce que je suis en train de raconter sérieusement dans cette émission, ça devient n'importe quoi, mais c'est très sérieux. Écoutez, c'est sérieux, il y a quand même le MIT qui est dessus, donc à mon avis ça devrait le faire. Donc si vous voulez participer, eh bien allez-y. On en rigole, même si bien sûr la finalité est de pouvoir aider dans l'identification de pathologies, de problèmes gastriques, et cette intelligence artificielle pourra au fur et à mesure être de plus en plus performante dans l'analyse de certaines anomalies à partir de photos que cette intelligence artificielle va pouvoir recevoir régulièrement. Donc voilà, vous pouvez y participer si vous le souhaitez. L'intelligence artificielle qui s'invite dans nos toilettes. Voilà. J'ai même plus de transition. Genre, au bout d'un moment, je ne sais plus comment faire. Là, pas mal d'expérience en termes de radio, mais au bout d'un moment, je crois qu'il faut être humble et se dire que c'est la fin de cette émission. Écoutez, c'est passé très vite, cette émission est déjà 12h55, je n'en reviens pas, on n'a pas arrêté. Alors j'ai pas eu le temps, mais du coup on en parlera la semaine prochaine, de vous parler de cette équipe de chercheurs qui a réussi à apprendre à des rats de laboratoire à conduire une voiture, une petite voiture bien sûr, adaptée à leur morphologie évidemment, mais ils vont conduire la voiture pour aller chercher une récompense. Ils ont appris à maîtriser ce véhicule. Je vous promets qu'on parlera la semaine prochaine. Je vous promets de parler aussi de la bière belge et les secrets de la bière belge qui sont enfin découverts, et on en sait un petit peu plus sur les gueuses et les trappistes bien sûr. On parlera également de cette information qui concerne les recherches, les travaux de recherche sur les signaux extraterrestres. Et cette recherche devient maintenant de plus en plus reconnue et elle est promue maintenant au rang de discipline scientifique. Et il y a justement Jill Tarter, pionnière de la recherche de signaux qui vient de lointaines galaxies, qui a été interviewée par l'AFP, et ce qu'elle dit est assez intéressant, on en parlera aussi la semaine prochaine. Et on pourra aussi évoquer la semaine prochaine, là encore, l'intelligence artificielle qui, cette fois, va pouvoir aider une personne paralysé à écrire. C'est une expérience totalement extraordinaire qui est en train d'être menée actuellement et par l'université de Stanford, et on évoquera tout ça la semaine prochaine. Voilà, c'est des choses de plus ou moins sérieuses évidemment, mais c'est ça aussi la science, c'est ça la vie. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et bien sûr Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. On retrouvera bien sûr Anne Fleur la semaine prochaine. Je crois qu'on restera encore sur le continent américain, il me semble, pour les innovations du monde. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée où que vous soyez. Profitez de ce week-end prolongé. On se retrouve samedi prochain à 12h sur l'antenne de Graphite. Et d'ici là, bien évidemment, vous restez fidèles à l'ensemble de nos émissions. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.